Semaine Sainte 2018. Semaine Sainte 2018, le MAG, Emmanuel Pella.
Né en 1973, autrefois appelé le Lion de Juda, la communauté des Béatitudes a comme particularité d'être une communauté dite du renouveau charismatique. Comme elle, 120 millions de catholiques dans le monde ont fait l'expérience de ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit et appris à développer leur charisme. Explication. Pour ce deuxième MAG en direct donc de Blagnac avec la communauté des Béatitudes avec qui nous passons ce Tridium Pascal, nous allons donc aujourd'hui parler de la vie charismatique. Je reçois donc le père Michel Martin Prével, qu'on représente, prêtre de cette communauté et supérieur de la communauté à Blagnac. Rebonjour.
Bonjour à tous en ce vendredi.
Et le frère Henri, qui est religieux et qui est étudiant ici à la communauté de Blagnac en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère Henri.
Bonjour.
La vie charismatique. Comme le disait Étienne Dallaire, l'office ne laisse pas supposer que vous êtes une communauté charismatique. Peut-être que pour l'instant à l'antenne, ça ne s'est pas vu ou entendu. Il y aura certainement d'autres occasions. Comment vous nous introduiriez, peut-être juste en quelques mots, Père Michel Martin Prével, la vie charismatique, c'est quoi ?
C'est un peu dans l'ADN de la communauté. C'est aussi avec ce grand mouvement, comme vous l'avez dit, qui a surgi dans l'Église après le Concile Vatican II. Donc c'est tout à fait la suite. Hein. L'Esprit Saint, c'est ce qu'il fait. Et aussi bien dans l'Église que dans de nombreuses communautés, dont la nôtre, il y a effectivement cette ouverture au charisme, à la louange, à la vie dans l'Esprit. Et cela, effectivement, est comme un peu notre jeunesse est quelque chose qui continue à se vivre dans notre communauté.
Je disais 120 millions de catholiques dans le monde, mais on aurait pu probablement ajouter les protestants. Le pape Jean XXIII, au moment du Concile Vatican II, avait fait une prière à Dieu. Je ne sais pas si elle avait été rendue publique ou s'il l'avait révélée après. Il avait demandé une nouvelle Pentecôte. Et on dit que toutes ces communautés nouvelles, et particulièrement ce renouveau charismatique qui a fleuri aux quatre coins du monde, est une réponse à cette prière du pape. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre en perspective le propos de ce jour pour montrer que ça ne concerne pas
oui,
que la communauté ici ?
Il avait ouvert une fenêtre dans son bureau, il y a quelques prélats qui étaient avec lui. Il faut que le vent, l'esprit, rentre dans l'Église. Alors ça, c'est le grand souffle de Vatican II, de cette nouvelle Pentecôte. Alors c'est de fait, presque sans le savoir, que sont nés dans beaucoup de communautés, comme l'Emmanuel, le Chemin Neuf et les Béatitudes, sont nés cette ouverture à la vie dans l'Esprit. C'est bien quelque chose qui est fondamental, parce que ça l'a toujours été dans l'Église. Il y a certaines périodes, il y a comme une vie plus évidente de cet aspect charismatique, parce que c'est toute l'Église qui est charismatique, bien sûr.
Alors on va prendre le temps d'expliquer ce qu'est cette vie charismatique dans cette première partie d'émission. Aujourd'hui, on a une demi-heure. On fera une pause et puis on essaiera de prendre par la main les auditeurs, comme on essaye de le faire dans chacune de ces émissions à l'occasion de ce Tridium, pour les aider peut-être à entrer dans cette vie charismatique. Est-ce que vous pouvez nous dire l'un ou l'autre la forme que cette vie charismatique a pris au début de la communauté ? On citait hier ce livre de votre fondateur, le frère Ephraim, qui s'appelle « Les pluies de l'arrière-saison », à propos donc de la préférence ou l'amour particulier que votre communauté a pour Israël, ou en tout cas pour le judaïsme. Et les invités hier du plateau disaient que dès le début, les fondateurs de la communauté avaient prié le Shabbat ensemble. Est-ce à dire que dès le début, il y a eu une vie charismatique particulière, et si oui, quelle forme ça prenait ?
Alors c'est vrai que la communauté, à ses débuts, avait aussi beaucoup reçu de la communauté de Lanza del Vasto, qui est aussi dans notre région, dans laquelle...
La communauté de Lanza del Vasto,
c'était une communauté beaucoup plus ancienne, elle date de 1950. Elle avait cette particularité de rassembler des personnes, alors cette fois-ci de religions peut-être différentes. Alors une intuition un peu différente, mais pourtant au cœur de cette communauté-là, la communauté de l'Arche de Lanza, s'était déjà manifesté ce renouveau qui venait des États-Unis, qui avait commencé à prendre en France, à Lyon et puis aussi à Toulouse avec quelques dominicains. Et donc à l'Arche, il y a eu aussi cette ouverture au Saint-Esprit avec une prière beaucoup plus libérée, le chant en langue par exemple. Et c'est les tout premiers frères et sœurs de la communauté avec Ephraim qui avaient déjà participé à ça au cœur de l'Arche. Donc il y a eu un retour, une arrivée peut-être de ce souffle charismatique dans la communauté par l'Arche. Également la Théophanie, une communauté plus ancienne qui était aussi très ouverte à ce souffle-là, à Montpellier. Et puis certains frères et sœurs sont rentrés dans la communauté. Ils avaient eux-mêmes vécu cette expérience dans des groupes de prière dans plusieurs endroits de France. Donc voilà comment au cœur de la communauté, ça a paru être une évidence qu'il fallait prier dans cette liberté plus grande. C'était essentiellement au début par beaucoup de prières spontanées que se manifestait la prière des frères et sœurs dans la chapelle de Cordes.
La prière spontanée,
c'est pouvoir dire librement des paroles, ce que chacun veut exprimer à Jésus. Ce ne sont pas des prières toutes faites ou des psaumes, ce sont vraiment ce que l'on veut dire à Dieu dans l'action de grâce, dans le merci, dans la demande, etc. Et puis il y a eu aussi très très vite, dès le début, dans des grands offices le samedi soir où on manifestait beaucoup la résurrection du Seigneur, il y avait aussi cette expression des charismes par la louange, le chant en langue et puis des paroles prophétiques, ce qu'on appelle aussi des paroles de connaissance qui touchaient beaucoup des gens qui venaient nombreux pour participer à ces temps de prière. Et il y avait donc déjà ces fruits de l'esprit, des personnes qui pouvaient se convertir, des personnes qui étaient rejointes dans leur souffrance, des personnes qui étaient guéries, etc. Les fruits de l'esprit, comme on les appelle.
Alors je vous propose peut-être pour nous introduire, je ne sais pas si vous pouvez, mais est-ce que vous pourriez prendre un chant en langue? C'est possible, but en blanc comme ça, de prendre un chant en langue?
Oui.
À quoi
oui,
ça ressemble? Introduisez-nous à cela. Alors vous allez nous expliquer maintenant ce que vous avez fait.
Ce que l'on vit très souvent, c'est être profondément ancré dans la prière et laisser monter de notre cœur profondément quelque chose qui ne passe pas par des mots, par de la verbalisation, mais qui est un peu ce que les enfants connaissent très tôt dans leur berceau, de babiller, de laisser des sons s'articuler sur leurs lèvres sans que ça veuille dire quelque chose à l'intelligence, mais qui sont comme une langue inconnue. On dit aussi comme image que c'est la langue des anges. C'est un babillement qui vient du plus profond de nous.
On dit souvent que c'est comme le déclencheur en fait de l'entrée dans les charismes. Alors en quoi un babillement peut aider à rentrer dans la vie charismatique?
C'est vrai que Saint Paul présente le chant en langue comme le plus petit des charismes que tout le monde peut exprimer ou exercer. Et dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, il nous dit aussi que nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l'Esprit Saint vient à notre aide par des gémissements ineffables et nous aide à prier. Alors le chant en langue, c'est ce charisme-là qui dispose l'âme à l'union avec Dieu dans la prière, dans la louange. Donc c'est un peu la porte d'entrée des charismes et chacun, tous les chrétiens peuvent véritablement exercer ce charisme.
Est-ce que c'est propre à cette période qui suit le Concile Vatican II, donc après 1965, ou est-ce qu'on a des traces dans l'histoire de l'Église où des religieux, des spirituels se sont, depuis le début de l'histoire de l'Église, essayés à ce balbutiement enfantin devant Dieu?
Non, parce que bon, l'écriture, c'est lié à la tradition. Et ce que dit saint Paul de ce chant en langue, c'est parce que tout simplement, ça c'est une certitude, ça se pratiquait dans les premières communautés chrétiennes, dans beaucoup d'églises de ces premiers siècles. Ensuite, il y a eu des périodes où ça a été peut-être un peu éteint. Je sais aussi qu'on a un témoignage, par exemple, à Milan, quand Ambroise faisait des liturgies magnifiques dans la cathédrale, c'est le 4e siècle, je crois, il y avait de très longs chants, des chants en langue qui s'élançaient dans cette cathédrale. On est au 4e siècle. Et puis à d'autres moments, peut-être au Moyen-Âge, peut-être au temps de Saint-François, et puis d'une façon plus limitée, dans certaines communautés, à certains siècles, ces choses-là ont pu réapparaître. Et c'est donc aujourd'hui, sans doute, depuis les années, enfin on peut dire le début du 20e siècle dans des églises protestantes, le fameux pentecôtisme qui a beaucoup repris ses pratiques. Et puis ensuite, c'est arrivé dans l'Église catholique, peut-être plus spécialement en Europe par la France d'abord, c'est le début des années 60. Et puis donc, cela a connu donc ce développement auprès de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, les personnes qui vont beaucoup à Paray-le-Monial, par exemple, entendent aussi tout à fait l'expression de cette vie dans l'esprit et l'expression des charismes.
Les charismes. Peut-être faut-il préciser d'abord, avant qu'on parle des charismes propres à la vie charismatique, le fait qu'il y a des charismes un peu ordinaires dans la vie de l'Église. Est-ce que vous pouvez apporter cette précision avant de nous parler des charismes plus extraordinaires, frère Henri?
Oui, c'est vrai que saint Paul rappelle aussi qu'il y a différentes sortes de charismes. Par exemple, les charismes de personnes, à savoir peut-être la prophétie, l'évangélisation. Les charismes qui sont donnés aux pasteurs pour guider l'Église et ses fidèles, les docteurs qui ont la charge d'enseigner tout le peuple de Dieu. Donc il y a cette catégorie-là de charismes. Après, on a aussi les charismes de la parole, comme ce qu'on appelle la parole de sagesse ou encore le discernement, la parole de connaissance. Donc ces différentes sortes de charismes qui existent véritablement dans l'Église.
Alors juste, ma question, c'était d'abord, avant qu'on parle peut-être des charismes un peu extraordinaires, c'est est-ce qu'il n'y a pas des charismes ordinaires, c'est-à-dire des talents quelque part, et puis Dieu se sert en fait de ces talents, c'est ça?
Ah oui, on peut évoquer le charisme de la compassion qui est donné à beaucoup de gens, cette façon d'être à la fois naturellement mais aussi porté par la grâce. C'est pour ça qu'on peut dire que l'Esprit Saint se loge là-dedans et qui porte des personnes à s'occuper des autres dans la souffrance. C'est aussi ce charisme d'être plus spécialement porteur d'une joie, d'une louange qui se transmet aux autres. Il y a des personnes qui transpirent, pour ainsi dire, cette joie de l'esprit, ces fruits de l'esprit qui sont la paix, l'amour. Donc ça, c'est tout à fait donné à tout le monde. Mais peut-être faut insister sur le fait que la louange, ce n'est pas réservé justement à des charismatiques, une catégorie particulière, mais c'est vraiment pour tous les baptisés. C'est le fait que nous sommes tous habités par l'esprit qui gémit en nous et qui fait remonter vers le Père cette louange qui lui est due. Ça s'appelle le chant en langue, ça s'appelle la louange exprimée de cette façon-là.
Donc en tout cas, la communauté des Béatitudes, vous prenez parfois des temps de prière où, bien ancré dans la prière, vous osez vous lancer dans ce chant en langue. Et à ce moment-là, Dieu donne, comme dans d'autres communautés, vous n'êtes pas les seuls, des charismes un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez les décrire? Il y a ce qu'on appelle la prophétie, des images, parfois des paroles de connaissance et parfois même des guérisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, frère Henri?
Alors, le charisme de prophétie, par exemple, fait partie de la catégorie des charismes d'inspiration. Et ce charisme particulier a pour spécificité de recevoir une parole, une image, peut-être de la part de Dieu, pour une personne. Donc Dieu nous inspire ce qu'il veut accomplir, par exemple, dans la vie de quelqu'un.
Et donc, excusez-moi, ça prend quelle forme? C'est-à-dire qu'on est en pleine assemblée, et puis tout d'un coup, il y a un frère qui dit, voilà, il y a quelqu'un dans la salle, je ne sais pas, qui a 42 ans, le Seigneur lui dit ça,
c'est oui, ça? Oui, ça, c'est ce qu'on appelle le charisme de la parole de connaissance. Donc la connaissance, c'est une révélation sur ce que Dieu est en train d'accomplir ou veut peut-être réaliser, par la foi bien sûr, dans la vie d'une personne. Donc cela se manifeste véritablement dans une assemblée de prière, et même en dehors, parce qu'il n'y a pas de limite à l'action de l'Esprit Saint.
Alors arrêtons-nous juste sur celle-là. Est-ce que vous avez été témoin une fois comme ça, de oui. ce type de... Est-ce oui. que vous pouvez nous raconter?
Alors ça s'est passé plusieurs fois au cours d'une assemblée de prière, ou ce qu'on appelle une campagne d'évangélisation, où au cours de la prière, il y avait un frère qui exerçait ce charisme et qui recevait dans son cœur que le Seigneur était en train de guérir une personne d'une maladie de l'ordre d'un miracle qui était parfois incurable à la médecine et à tous les moyens humains qu'on pouvait utiliser. Et ça, cela s'est attesté par un témoignage. Donc cette personne qui a été guérie et qui s'est sentie touchée est venue témoigner. Et après, par des preuves à l'appui, avec des examens qui ont été faits médicalement, qui ont prouvé que cette personne avait été véritablement guérie.
Donc ça, c'est la guérison. Si on revient sur la parole de connaissance, est-ce que vous voulez prendre un autre exemple?
Moi, j'ai l'exemple d'une personne. C'était une femme qui est venue comme ça un jour dans notre communauté. Elle a été très étonnée que dans une parole de connaissance, alors que personne ne la connaissait, elle a entendu un frère qui disait des choses très profondes qu'elle était en train de vivre. Elle avait une sorte de petit désespoir qui la minait, qui l'empêchait de croire vraiment que Jésus voulait la sauver. Elle a été comme bouleversée intérieurement par cette révélation. C'est comme le Christ qui s'adressait directement à elle par un simple intermédiaire. Et elle ne s'est pas centrée sur l'intermédiaire, elle a bien compris que c'était le Christ qui lui parlait. Et cela a été le début d'une conversion véritable. Elle a, après cela, elle est revenue beaucoup plus au sacrement, à la foi, et elle s'est engagée ensuite dans l'Église.
Est-ce que vous pouvez prendre un autre exemple, avant qu'on fasse une pause, qui est ce qu'on appelle le charisme de prophétie ou les images ? Souvent dans ces assemblées, il y a, je crois, des images qui sont données. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce qui se passe, comment on peut être sûr qu'on devient, qu'on n'est pas fou, et que c'est juste d'en parler et puis prendre un exemple?
Oui, il faut dire que l'image intérieure qu'on reçoit, c'est une illumination de la part de l'Esprit-Saint. Donc c'est pas une image visuelle qu'on a d'ordinaire par les puissances de la vue, mais c'est vraiment une illumination de la part de l'Esprit qui montre à un moment donné...
On pense à une image, en fait. C'est...
Oui, il y a une image un peu spirituelle qui décrit par exemple une personne, et c'est véritablement au moyen de la foi, qui manifeste ce que Dieu, par l'Esprit Saint, est en train d'accomplir dans la vie d'une personne.
Est-ce que vous avez un exemple?
Moi, je pense à cette image que, vous voyez, c'est une sorte de parabole. C'est celui qui reçoit cette image la décrit. À la radio, on décrit ce que l'on voit parce qu'il n'y a que le son. Et bien, c'est un peu du même ordre. On ne voit pas précisément ce qui est signifié, mais c'est décrit. Et c'est comme ça que quelqu'un recevra l'image d'un grand champ avec beaucoup de lumière. Et puis le vent est en train de passer dans ce champ. Il était en train de déplacer des épis. Mais il y a une grande paix, en fait, qui est communiquée par cette image à une personne qui peut-être sort d'une grande épreuve. Donc c'est une révélation visuelle, pour ainsi dire, une vision intérieure qui apporte une consolation ou une direction particulière que reçoit une personne.
Il y a une dernière chose qu'il faut préciser quand même avant de faire cette pause, c'est qu'il y a un peu des conditions pour exercer ces charismes et des conditions de discernement. C'est-à-dire que ça doit être vécu en église, comme on dit, et puis c'est que ça doit toujours servir l'unité, c'est ça ?
Alors oui. C'est très tourné vers les autres, toutes les charismes sont faits pour les autres, c'est pas pour soi. Ça n'a rien à voir aussi avec la sainteté de la personne qui exprime telle ou telle prophétie ou qui exerce tel ou tel charisme. C'est donc pour souvent des pauvres, c'est parce que c'est cette capacité à vraiment s'ouvrir à Dieu d'une façon gratuite et pauvre. Et c'est aussi pour des pauvres souvent qui savent tout simplement recueillir cela dans leur cœur et en faire une bonne nourriture. Donc les conditions, c'est d'être tous des enfants de Dieu, sous le regard de Dieu, écouter vraiment ce que l'Esprit fait en nous-mêmes. Et donc ça suppose tout simplement un grand abandon.
On fait une pause et on vous retrouve après pour peut-être accompagner les auditeurs dans le désir qu'ils auraient de rentrer dans cette vie charismatique si je l'ai bien compris, en tout cas si on écoute le pape François qui réunissait les membres du renouveau charismatique à la Pentecôte dernière à Rome, 60 000 personnes à l'occasion des 50 ans du renouveau, a dit à l'Église que la vie charismatique n'était pas réservée à certains mais à tous.
comme feu t'éclairera le jour et la nuit et sera devant toi.
Cette émission ce matin dans ce mag de ce Tridium Pascal en ce vendredi saint sur la communauté des béatitudes et la vie charismatique avec le père Michel Martin Prével, prêtre et supérieur de la communauté à Blagnac, et le frère Henri, religieux et étudiant ici en théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Pour cette courte deuxième partie d'émission, que conseilleriez-vous aux auditeurs qui, touchés par ce que vous avez pu partager, probablement, enfin, qui auront entendu parler de la vie charismatique par ailleurs, pour les aider à rentrer dans cette vie charismatique, père Michel Martin Prével? Quelle première étape?
Ben, vous avez dû faire cette expérience quelquefois dans votre voiture tout seul. Vous êtes dans une certaine joie, vous êtes content, puis vous avez un beau paysage en plus devant les yeux, et vous vous surprenez à chantonner comme ça, à dire des choses qui dépassent un peu la raison, parce que tout simplement vous êtes seul, vous êtes comme un peu en face de Dieu. Voilà, c'est ça, cette attitude fondamentale d'ouvrir la bouche et de laisser monter vers Dieu ce qui peut venir de notre cœur. Alors ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire. On peut le faire dans sa salle de bain le matin en se rasant, pourquoi pas. Mais aussi, bien sûr, parce qu'il y a des lieux où cela est plus pratiqué. Je pense à tous ces groupes de prière, ils sont très nombreux en France, en tout cas dans beaucoup de grandes villes.
Alors juste, attendez, vous en parlerez juste après. Donc ça, c'est vous prenez l'image. Redites-nous peut-être pourquoi, qu'est-ce que ça change en fait? Parce qu'on peut très bien prier les psaumes, on peut avoir une prière liturgique. Le fait de rentrer dans cette liberté, c'est vraiment comme ça que l'esprit en fait peut s'engouffrer, c'est ça? Est-ce qu'il a besoin de ça?
Je crois que l'esprit rend libre, et c'est cette sortie un peu de soi, d'une façon mystique et un peu extrême, ça peut même s'appeler une extase, mais ne parlons pas d'abord de ça. C'est parce que c'est quelque chose de très ordinaire que de sortir de soi, parce que nous sommes en présence d'un Dieu qui est curieusement profondément ancré en nous et en même temps qui est le tout autre, le tout extérieur. Et c'est ce mouvement de sortie de soi qui nous ouvre d'ailleurs à de l'universel, et ça nous ouvre aussi aux autres. Donc ce n'est pas une petite expérience individuelle et puis comme ésotérique. C'est au contraire une ouverture aux dimensions de l'univers, une dimension d'un Dieu qui est à la fois immanent et en même temps profondément transcendant. Voilà, ça c'est une expérience donc spirituelle fondamentale, et qui fait que tout baptisé, parce qu'il a l'Esprit Saint en lui, peut être appelé à connaître. Alors il faut le vouloir, il faut s'y mettre. Je dirais que c'est en pratiquant qu'on finit par le vivre.
Donc on s'essaye à la louange, et si on veut s'essayer au chant en langue, on fait comment?
Ça va venir après,
On
ouvre la bouche, oui, c'est ça. Ouvre la bouche et donne au Seigneur ce qui monte sur tes lèvres.
Mais plus précisément, frère Henri, c'est la première fois que vous êtes lancé, comment vous avez fait?
C'est vrai qu'à la communauté, on a l'habitude d'invoquer l'Esprit Saint au début de nos offices, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à prier véritablement. Et la louange commence par une invocation à l'Esprit Saint, par un désir profond de rendre à Dieu ce qui lui est dû. D'où la nécessité de se poser la question, qui est Dieu et pourquoi dois-je le louer? Dans un cri de reconnaissance envers notre Père, celui à qui nous devons tout.
Voilà. Je pense à un autre exercice, moi j'ai souvent fait ça dans des groupes de prière. On part du psautier, ça c'est la prière de l'Église, la prière de génération et de génération, et il y a des psaumes dits de louange qui vont aider plus précisément à faire cela. Donc on peut lire comme ça, d'une façon un peu rapide, et on lit des psaumes de louange qui portent le cœur, d'abord par ces paroles qui sont des paroles intelligibles, pour qu'à un moment donné, on se lance dans le vide. Et puis on laisse venir autre chose qui sera absolument inintelligible, mais qui est une vraie expression d'une prière qui peut être comme ça, uniquement entendue du Seigneur.
Après, donc, il s'agit de ne pas vivre ça que dans sa voiture ou dans sa salle de bain, mais de rejoindre d'autres chrétiens. Oui. Donc, on fait quoi? On essaie de trouver un groupe de prière charismatique près de chez soi?
Alors, ça existe certainement pas très loin de chez vous. Il y a des groupes de prière. Il y a aussi des communautés.
On regarde sur le site du diocèse.
Il y a ça sur le site des diocèses. Et puis, je pense aussi à cette expérience, parce que là, il y a beaucoup de monde. C'est à Paray-le-Monial où je pense qu'aujourd'hui se renaît très fortement l'expression des charismes et la louange du chant en langue.
Donc, Paray-le-Monial, c'est ce lieu en Bourgogne.
Des sessions qui se passent
organisées par la communauté d'Emmanuel.
Voilà. Et puis il y a aussi des moments avec la communauté des Béatitudes, peut-être qu'on peut le signaler. Il y a un pèlerinage à Lourdes cette année encore du 11 au 15 juillet où on vit effectivement cette dimension-là. Et puis aussi à Lisieux, c'est du 31 juillet au 4 août. Il y a donc ces deux grands moments. Et puis également à Nouhans-le-Fuselier, beaucoup de retraites et de rassemblements où on peut aussi faire cette expérience d'une vraie liberté dans l'Esprit Saint.
Et même à la communauté des Béatitudes aussi, avec nos soirées Espérance, qui sont aussi des lieux d'expression et d'exercice de charisme.
Ici, hein, à Blagnac. Étienne Dallaire, ça peut paraître peut-être pour certains un peu du folklore, pour d'autres facultatif, la vie charismatique et ces charismes que Dieu donne. Est-ce que vous auriez un commentaire? Est-ce que ça peut être une manière de commencer à cheminer aussi vers Dieu que d'être témoin de ces charismes?
Je dirais c'est tout simplement la vie dans l'esprit. Et finalement, la vie dans l'esprit, c'est la vie chrétienne normale. Voilà, à partir de là, ça peut prendre cette coloration un peu particulière du renouveau charismatique. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans. Le chrétien, qui fondamentalement est habité par l'esprit, mais va vivre une vie en essayant de laisser de plus en plus de place en lui à l'Esprit Saint. Et après, l'Esprit Saint, il va produire des tas de choses qui nous surprennent parfois.
Séraphim de Sarov, qui est un de nos patrons à nous dans la communauté des Béatitudes, qui est un grand saint de l'Orient, disait « La vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit ».
Merci beaucoup d'être venu au micro de ce mag du Tridium Pascal sur la communauté des Béatitudes et la vie charismatique.